Alors, nous accueillons Emilia Koustova qui va intervenir tout à l'heure. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la première communication avec vous, Anne-Marie Louchoncy. Donc, vous êtes anthropologue, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vos recherches portent notamment sur la Hongrie post-soviétique, membre associé au CERSEC. Et vous avez coordonné donc, les entretiens et tout le volet consacré à la Hongrie dans le cadre du projet des archives sonores d'Europe du Goulag. Et maintenant, vous allez revenir sur un aspect peu étudié de l'histoire des Goulags, celui de la déportation des enfants des pays d'Europe centrale et orientale. Et finalement, vous soulignez que cette forme de témoignage, vous soulignez que cette forme de témoignage a été très peu étudiée, et vous allez l'aborder à travers la notion de mémoire tardive.
Oui. Je voudrais remercier Elle Bullard pour cette invitation et vous remercier tous d'être là. Je vais aborder ici une recherche que nous menons avec Marta Craveri ensemble et qui peut aussi servir d'exemple dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par Alain Bloom pour montrer au-delà de l'aspect très important de construction d'archives sonores, de production d'un livre et de l'archivage de ces témoignages de gens déjà très âgés, donc qui avaient par conséquent un caractère d'urgence aussi, au-delà donc de tous ces aspects, quels sont les fils qu'en tant que chercheurs, nous pouvons tirer de ce corpus très particulier par sa diversité nationale, par sa construction à travers une idée qui a été centrale pour nous dans la conception du projet, qui était l'expérience européenne du Goulag, c'est-à-dire l'expérience du Goulag de ceux qui... en tout cas jusqu'à 39-40, ne font pas partie de l'Union soviétique, population donc qui, d'une certaine façon, dont les parties déportées, en tout cas, font leur première expérience de l'URSS par la déportation. Dans ce projet, par la nature même, par le moment même de l'enquête, nous avons rencontré des gens, comme je l'ai dit, très âgés. Les survivants du Goulag qui ont été déportés adultes sont pour la plupart décédés déjà, pour ne pas dire pour la totalité. Par conséquent, une dimension qui a émergé très fortement dans notre corpus au fil de sa construction a été la dimension de la déportation d'enfants ou de préadolescents, dirions-nous aujourd'hui en France, donc des êtres entre l'enfance et l'adolescence, l'enfance et l'âge adulte, et parfois même, souvent même, des enfants en bas âge, déportés avec leur famille, déplacés, forcés avec leur famille, comme l'a rappelé Alain. Et donc, l'expérience... infantile du Goulag est émergé comme un sujet qui nous a fortement intéressé avec Martha et sur laquelle nous avons commencé à nous interroger. Et je vous livrerai juste quelques pistes, le temps ne me permet pas plus, de cette recherche avec justement une réflexion, comme vous disiez, sur les caractéristiques de ce qu'on peut appeler une remémoration tardive. Parce qu'il faut quand même peut-être repréciser, bien que ce soit présent depuis le début de cette présentation, que nous ne travaillons pas à travers des témoignages individuels sur le Goulag en tant que macro-institution. Le macro-contexte est en train de se faire par les travaux très importants d'historiens, mais nous travaillons sur une expérience, sur des expériences, et en particulier, nous travaillons sur la restitution tardive de ces expériences. Nous travaillons sur la restitution tardive de ces expériences, pour en remettre encore une couche, restitution qui se passe dans des conditions très particulières que nous a imposées cette enquête, en raison de pouvoir offrir des conditions d'archivage sonore et de conservation optimales. Nous avons enregistré ces entretiens, il me semble important de le préciser, avec un appareillage technique important, donc, qui pour moi, en tant qu'ethnologue, a été inhabituel, puisque j'ai l'habitude de travailler d'une façon beaucoup plus informelle, seul, avec un petit enregistreur ou même sans enregistreur, et qui, enfin, peu importe, je veux dire, l'essentiel, c'est que pour les témoins, cet appareillage technique et le fait que nous avions enregistré ces entretiens la plupart du temps à deux, un technicien ou un collègue qui aidait l'enregistrement, parce qu'on ne peut pas à la fois manipuler cet appareillage technique et véritablement écouter le témoin, et donc celui qui écoutait, bien plus qu'il n'interrogeait, en tout cas dans mon cas. Donc il y avait un dédoublement d'une certaine façon de l'écoute, de l'enregistrement, et il y avait une dimension très importante qui était celle que les témoins savaient que cet archivage et cet enregistrement de leur témoignage aurait une audience internationale. Donc au-delà des limites, des frontières nationales de leur pays. Je vais essayer de dire en conclusion quelques mots sur ces biais-là et sur la façon dont nous sentons, Martin et moi. Je dis sentons parce que nous n'arrivons pas encore à ce stade de la recherche à véritablement préciser ceci, mais sur la façon dont nous percevons ces biais, l'impact de ces biais sur la construction du récit et sur la nature de ces productions mémorielles que sont ces récits. Alors, je voudrais juste rappeler, ce ne serait pas en tout état de cause à moi peut-être de le faire, puisque je suis la non-historienne, une des non-historiennes de l'équipe, le macro-contexte. Il faut juste peut-être rappeler qu'en septembre 1939, à l'issue du pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, l'URSS annexe les territoires orientaux de la Pologne, qui aujourd'hui appartiennent à l'Ukraine et à la Biélorussie, les territoires orientaux de la Roumanie, la Bukovine et le nord de la Bessarabie, et les Pays-Bas. Donc il y a l'annexion d'immenses territoires à ce moment-là, et les élites politiques, économiques et militaires des différentes nationalités, entre guillemets, c'est une catégorie soviétique, de ces territoires, donc polonais, juifs, allemands, ukrainiens, lituaniens, lettons, estoniens et biélorusses, sont à ce moment-là déplacés de force ou condamnés aux travaux forcés dans les travaux du goulag. En Pologne, entre 1940 et 1941, les Soviétiques organisent quatre grandes vagues de déportation destinées à purger les régions orientales des éléments indésirables, entre guillemets. La première opération en février 1940 vise les colons civils et militaires qui sont les anciens membres de l'armée polonaise qui avaient reçu, à l'issue de leur participation à la Première Guerre mondiale, des terres dans ces régions. En avril 1940, la déportation va concerner les fonctionnaires, policiers, gendarmes, gardiens de prison, etc., et ceux qui tombent dans la catégorie soviétique de classe possédante également. Et lors de la troisième vague, en juin, donc vous voyez, tous les deux mois, il y a une vague de déportation, là. En juin 40, là, on va commencer à déporter les réfugiés qui ont fui la Pologne occidentale devant l'avancée des Allemands vers les territoires orientaux. Et puis, la dernière vague, en juin 41, déborde les territoires orientaux de la Pologne vers les pays baltes et la Moldavie. Ces deux types de déportation dont parlait Alain Blum tout à l'heure, à ces deux types de déportation sont sous-jacents deux types de condamnation et deux manières, si j'ose dire, de gérer les arrêtés. Les déplacements forcés concernent en général des groupes ethniques ou des groupes sociaux entiers, donc des collectivités qui sont, en tant que collectivités, jugées dangereuses pour les intérêts de l'Union soviétique, alors que les déportations en camp concernent des gens condamnés, parfois, souvent très hâtivement, mais condamnés quand même, à des travaux forcés d'une façon individuelle. Il est important de tenir compte de ça parce que dans le cas des déplacements forcés, on déportera en tant que collectivité des milliers, des dizaines de milliers de familles entières de plusieurs générations, grands-parents, parents, enfants. Souvent, une fois arrivé, souvent, comme disait Alain Blum, ses parents, le père de famille qui sera envoyé en camp et le reste de la famille maintenu en villages spéciaux de peuplement, en Sibérie en général. Et donc, ces déportations vont concerner au fil de l'avancée de la guerre des paysans baltes qui s'opposent pour la plupart à la collectivisation forcée des terres et qui sont soupçonnés, souvent à raison, mais aussi souvent à tort, d'aider les résistants anti-soviétiques armés qui se retranchent dans les pays baltes, dans les forêts. Et puis, finalement, à partir de 1945, parmi les importantes minorités d'Allemands ethniques qui se trouvent sur les territoires libérés par l'armée rouge, en Roumanie, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie et Tchécoslovaquie, de très nombreux jeunes adolescents sont déportés seuls, de même que dans les pays que l'armée rouge traverse vers son avancée vers Berlin, des rafles massives sont organisées à chaque fois, déportant ainsi dans ces pays-là, en Hongrie notamment, des très jeunes adolescents de 12, 13, 14 ans au goulag. Alors, il est évident que, et on n'a pas le temps d'en parler plus, d'une façon plus détaillée, que la représentation et le traitement social de l'enfance dans les sociétés et les cultures différentes et à des époques historiques différentes est extrêmement diverse. Mais on peut peut-être y trouver un point qui est largement commun, qui est que l'autorité familiale et la primauté de l'autorité familiale dans la première socialisation des enfants est une constante culturelle assez largement partagée de par le monde, en tout cas dans cette partie du monde très clairement. Et les populations qui sont touchées par ces déportations, qui sont pas du tout majoritairement des intellectuels urbains, mais qui sont très majoritairement des populations paysannes plus ou moins pauvres, construisent une pratique et une représentation de l'enfance, disons, normée, à travers une période très courte de la vie d'un jeune être humain qui avance vers l'âge adulte assez rapidement par la dureté et la complexité croissante des travaux qui sont confiés à l'enfant pour aboutir, sans passer par ce que nous appelons aujourd'hui une adolescence, donc une période transitoire de relative grande irresponsabilité sociale entre l'enfance et l'âge adulte, donc sans cette adolescence, vers une entrée précoce dans l'âge adulte par le travail et par le mariage. Dans les milieux urbains plus scolarisés et d'un niveau social supérieur, bien entendu, l'enfance s'élargit, dure plus longtemps, s'étaye sur des études et implique une période d'adolescence qui est bien entendu plus courte que celle que nous connaissons actuellement. C'est dans cette normalité sociale et culturelle de l'enfance que l'expérience de la déportation va introduire une radicale subversion par une dépossession immédiate et instantanée des parents de leur autorité parentale, par le moment de l'arrestation qui sera évoqué par nos témoins, tous pratiquement, comme étant le moment émotionnellement le plus fort et le plus dur à évoquer à travers l'image de parents malmenés, humiliés, physiquement maltraités. Alors que l'humiliation propre à ce moment-là et la perte qui se passe en quelques heures de l'univers entier de l'enfance sont très rarement évoquées d'une façon explicite, comme si l'expérience, l'évocation de l'expérience de l'arrestation des parents, la vue de l'arrestation des parents fonctionnait comme souvenir écran devant la difficulté d'évoquer l'humiliation propre, l'impuissance propre, et ce moment signait une identification extrêmement forte qui revient dans le récit de personnes de entre 70 et 85 ans aujourd'hui. Une identification extrêmement forte avec les parents. Donc cette répression qui efface au moment de l'arrachement des populations les limites entre générations, en revanche, dès l'arrivée des populations au lieu de détention, des mémoires infantiles divergent sur les souvenirs du pendant la déportation, soit dans les camps, soit dans les villages de peuplement. Dans les camps, la dureté extrême du travail, la faim, le froid, les normes, la toute-puissance des normes et la très grande brutalité de l'appareil répressif du camp et des conditions de promiscuité unifient les générations enfants, jeunes, adultes et vieux dans un destin largement semblable. Les enfants doivent travailler et travaillent, alors que dans les villages de peuplement, dans un souci de rééducation, le pouvoir soviétique rétablit, en tout cas partiellement, une scolarité en principe obligatoire, mais qui dans la pratique, devant la disparition du père, le décès ou la maladie de la mère et l'existence de sœurs et frères plus jeunes, s'efface souvent de la vie des enfants. Qui doivent chercher des activités de survie et doivent travailler pour pouvoir contribuer à la survie familiale. De nombreux enfants finissent ainsi par perdre leur famille entièrement et sont placés alors seuls dans des orphelinats, des lieux de déportation. Le plus souvent, ce placement signe le début d'une très rapide perte de mémoire,
de la mémoire de l'identité individuelle et ethnique pour des enfants qui sont soumis alors à la pression de leurs contemporains et à l'endoctrinement et, de la socialisation scolaire de l'orphelinat. Alors, il y a une troisième figure de, d'enfants que nous avons découvert, que ces témoignages nous permettent de découvrir, ce sont les enfants qui sont nés au goulag. Et donc, dont la première socialisation la réalité du goulag. Ces enfants n'ont pas comme point de cristallisation de leur mémoire et de leur récit ce moment de l'arrestation des parents. Ils construisent un récit tout en demi-teinte, très nuancé, d'une petite enfance dont l'ordinaire est la vie en déportation. Et ils grandissant dans ce milieu, ils sont souvent scolarisés et finissent par être marqués par des valeurs sociales et culturelles de soviétiques et conçoivent des projets donc de vie pour plus tard en termes de la bonne vie, de la vie souhaitable soviétique. Si on s'interroge en conclusion, quelles sont les particularités de ces entretiens qui construisent à l'intention d'un tiers non national qui écoute, je le répète. Donc, certes, j'ai écouté mes interlocuteurs hongrois en étant hongroise moi-même, mais je ne suis pas une hongroise du même milieu social et je ne vis pas actuellement en Hongrie. Pour les autres entretiens, il est arrivé que ceux qui écoutaient soient de la même nationalité que ceux qui étaient écoutés, mais d'une manière générale, l'écoute introduisait, comme c'est la plupart du temps le cas, introduisait et médiatisait une distance générationnelle, sociale et culturelle sur laquelle travaillait l'entretien et la relation d'écoute. Et en réalité, si on s'interroge quelles sont les particularités de ces récits, quelle manière sont restituées ces enfances, quelle est la particularité de cette remémoration tardive après tant d'années, qui n'est pas toujours la première remémoration publique pour nos témoins. On en a quelques-uns qui n'ont jamais remémoré publiquement ces souvenirs. Mais la plupart en ont déjà parlé devant des chercheurs ou des journalistes de leur propre pays. La diversité nous frappe comme première caractéristique, la diversité extraordinaire qui exclut toute synthèse unique sur ces enfances. Mais il y a quelques points communs qui émergent cependant. En premier lieu, le vécu d'une rupture qui se condense dans l'évocation de l'extrême brutalité et soudaineté des arrestations massives. Elles font voler en éclats en l'espace de quelques heures la structure de socialisation et d'autorité familiale et contraignent les enfants à saisir instantanément de nouvelles règles de survie dans des situations successives d'éclatement de la famille et la disparition de certains. Le second point commun pourrait être évoqué comme la façon dont le récit se construit par l'évocation de tentatives successives de réinvestissement et de reconstruction continuelle de ces liens familiaux. Je veux dire, ces enfants du goulag racontent leurs tentatives inlassables en déportation, de reconstruire ces liens familiaux, de les maintenir, de les faire survivre, de s'en souvenir de leur nom, de leur village, de leur langue, de maintenir en vie leurs parents, leurs frères et sœurs, etc. Donc, ça passe par la prise de responsabilité dans la survie des proches, des frères et sœurs, qui conduit à une maturation très rapide et précoce et à la construction de petits adultes très très rapidement. Les récits tardifs de l'enfance en déportation mettent aussi en œuvre d'autres formes spécifiques de reconstruction mémorielle, qui est peut-être l'enseignement le plus intéressant sur lequel je voudrais finir cette intervention. C'est la restitution d'un moment, notamment pour les enfants qui sont nés au goulag, où bien plus tard, après le retour, adultes, alors là, socialement aussi adultes, ils apprennent d'une façon ou d'une autre, ce qui constitue encore une fois un point extrême de cristallisation du récit, les souffrances et les violences, les souffrances des parents et les violences qui leur sont faites, qui leur ont été faites. Ce moment reconstruit tout le récit et qui crée une sorte de dédoublement mémoriel et une espèce de mémoire secondaire par procuration. Dans ce décalage entre une mémoire d'enfant attachée à un quotidien en demi-teinte et la prise de conscience plus tardive de très dures épreuves endurées par les parents. Il y a là une espèce d'ambiguïté émotionnelle qui marque ces moments, et c'est dans l'émergence de cette mémoire secondaire par procuration, fortement teintée par une culpabilité qui est parfois même exprimée d'une façon explicite, et par un sentiment très fort de dette vitale vis-à-vis des parents, comme si la souffrance des parents était le prix de la survie de soi. Cette mémoire secondaire, l'émergence de cette mémoire secondaire est celle qui permet que le souvenant, c'est-à-dire celui qui se souvient, celui qui remémore quelque chose qu'il a vécu, se transforme en témoin. C'est à partir de ce moment-là que ces gens non seulement deviennent capables de verbaliser cette expérience, mais deviennent désireux de le faire, commencent à associer la restitution de ces souvenirs à une espèce de dette éthique et morale de témoignage. Et donc, à partir de ce moment, se met en place cette transformation du souvenant en témoin, qui est témoin, qui est celui que nous écoutons. Je vous remercie, c'est tout ce que je voulais vous faire partager.
Merci beaucoup Anne-Marie Lechancy.